Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui la Grande Loge de France. Bonjour à toutes et à tous. Au micro aujourd'hui, Perry Willet, je suis sans Jean-Michel Dardour qui est en vacances. Nous le saluons, il a bien de la chance d'être en vacances. Et aujourd'hui, je reçois deux personnes qui ont participé activement à notre dernier colloque hashtag mon avenir, qui va être le fil rouge de notre émission aujourd'hui. Je vous présente donc Robert de Rosa.
Bonjour.
Et Adrien Morel.
Bonjour.
Robert, vous êtes un ancien frère, si je peux me permettre, et vous, Adrien, vous êtes un tout jeune frère. Et c'est précisément au travers de ces deux extrêmes que nous allons vous écouter pour avoir ce regard croisé sur ce colloque. Robert, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ?
Mais Robert de Rosa, membre de la Grande Loge de France depuis 1966, ce qui fait un certain bail. On peut même dire que je suis vieux.
Oui. 50 ans de maçonnerie, vous êtes rentré très jeune alors, parce que vous êtes pas
à 21 ans, oui, oui. À 21 ans, je suis rentré à la Grande Loge de France, j'y suis resté 50 ans, et c'est en gros 50 ans de travail et de bonheur.
Et vous, Adrien ?
Eh bien, moi, Adrien Morel. Alors bon, pas comme Robert, moi j'y suis depuis 10 mois, pareil, à la Grande Loge de France. Et alors j'ai 31 ans bientôt, dans 15 jours, et j'ai le même plaisir que Robert, mais moins long.
Oui, un plaisir qui va durer, je souhaite le plus longtemps possible. Alors, il y avait trois tables rondes à ce colloque. La première, le matin, il était question de partage, et je crois, Robert, vous l'avez animé. La deuxième table ronde, l'après-midi, sur l'amour, et Adrien, vous avez participé activement à cette, si j'ose dire, à cette table ronde, et une troisième, sur le travail. Et nous allons regarder un petit peu ce qui s'est passé au cours de ces trois tables rondes. Mais je voudrais demander d'abord à Robert de Rosa, qui est un des organisateurs de l'événement, quel était l'objectif de ce colloque qui a été, il faut le rappeler ici, organisé à la fois par la Grande Loge de France et par la Grande Loge féminine de France. Alors pourquoi ces deux obédiences se sont réunies ? Pourquoi s'intéresser aux jeunes puisque, paraît-il, les francs-maçons ne seraient que des vieux ? N'écoutez pas Adrien. Donc pourquoi nous avons voulu faire ce colloque ?
Alors d'abord, pourquoi ces deux obédiences ensemble ? C'est parce qu'elles ont une histoire commune. La Grande Loge de France, par le biais de réanimation des loges d'adoption, a permis de la création de la Grande Loge féminine de France. C'est donc cette histoire commune qui a déterminé le grand maître Philippe Charuel à entamer une action envers la jeunesse pour que la franc-maçonnerie leur soit présentée d'une autre façon que celle qu'on trouve dans les médias habituels. Ça a donc été une rencontre et un partage, le mot n'est pas trop fort parce que les jeunes qui étaient dans la salle ont vraiment participé, posé des questions et se sont intéressés à ce qu'était vraiment la franc-maçonnerie au-delà des clichés habituels.
Alors, je vais demander à Adrien, évidemment, qu'est-ce que lui, il en a retiré, bien qu'il était dans les animateurs. Je voudrais rappeler que si vous avez été animateur, c'est parce que préalablement des questions avaient été posées à tous les jeunes frères de la Grande Loge de France et des réunions préparatoires ont eu lieu au cours desquelles nous avons invité plus particulièrement les 25-35 ans. Et puis parmi ceux-ci, il y avait des frères qui étaient un peu plus actifs que d'autres, donc vous Adrien, donc vous avez été requis du coup pour animer une table ronde. Donc vous étiez des deux côtés de la barrière. Mais est-ce que je peux vous demander dans un premier temps, qu'est-ce que vous avez retiré en tant qu'acteur et spectateur de cette réunion ?
Alors, en tant qu'acteur, tout d'abord, c'était un plaisir particulier. Parce que, en tant que jeune frère, 10 mois, c'est rien. Et j'avais vraiment un plaisir particulier de me dire, je vais pouvoir, au lieu d'être habitué à énormément d'écoute, là, pouvoir participer, à parler, à échanger. Donc ça, c'était la première particularité. Ensuite, sur la globalité du colloque, c'était d'abord toutes les rencontres qui ont pu se faire. Et je parle de découvertes. Robert de Rosa, c'est, pour moi, c'était une personne de livre, une personne fictive qui n'existait pas. Et là, j'ai pu le rencontrer, le connaître, discuter, l'écouter surtout, écouter lors de la table 1. Ses remarques étaient formidables. Donc c'est ça en fait. En tant que jeune, j'ai pu découvrir clairement ce qu'était une partie, on va dire, de la franc-maçonnerie, vu qu'elle sortait pour une fois, qu'elle s'exposait aux yeux de tous librement, puisque aussi c'était diffusé en direct, ce qui était une chose qui n'avait jamais été vue auparavant.
Et puisque vous parliez de partage, la première table ronde que Robert animait, mais qu'est-ce que Robert et vous, Adrien, qu'est-ce que l'on peut partager ensemble dans une loge ?
Ben, je pense qu'on peut absolument tout partager, la vie en fait. Robert a justement ses 50 ans de maçonnerie et toute son expérience au-delà de maçon qui lui permet de transmettre justement tout ce qu'il a pu emmagasiner, toute la richesse qu'il a pu tirer de cette vie déjà incroyable. Et moi, je suis spectateur de ça. Et aussi, par ma jeunesse, je pense pouvoir lui transmettre une chose. Ma vision aujourd'hui du monde est, à mon avis, intéressante pour lui.
Et réciproquement, Robert ?
Mais tout à fait. Je crois que là, notre présence à tous les deux aujourd'hui, c'est un exemple très précis de ce qu'on peut rencontrer dans les loges maçonniques de la Grande Loge de France. C'est que, quel que soit son âge, on est avant tout frères. C'est-à-dire des hommes qui sont en recherche vers une quête de perfectionnement ou d'idéal. Et à ce titre-là, qu'on ait 35 ans ou qu'on en ait 71, il n'y a pas de problème. On se situe exactement sur le même plan. Et parce que nous avons la même expérience initiatique, nous pouvons échanger sur les mêmes sujets d'égal à égal. Je crois que c'est une caractéristique de notre méthode maçonnique qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et ce fonctionnement a été particulièrement évident au cours de ce colloque, particulièrement à la table ronde à laquelle j'étais, parce que c'est celle-ci dont je peux parler le plus facilement. Je crois qu'il y a vraiment eu des questions pertinentes de la part du public et qui nous interrogent, nous aussi vieux maçons, c'est-à-dire que les jeunes qui sont en face de nous sont la franc-maçonnerie de demain. Par conséquent, il faut écouter leurs questionnements et tenter non pas de leur apporter des réponses, mais de les conduire sur le chemin qui leur apportera des réponses.
Il est clair que les questions qui ont été posées par ces jeunes sont les mêmes questions que se posent des jeunes qui sont non-maçons. Il n'y a pas une spécificité de la réflexion du jeune non-maçon par rapport au jeune maçon. Je pense qu'il faut insister sur le fait que les jeunes maçons et non-maçons sont des jeunes, les moins jeunes maçons et non-maçons sont aussi de la même catégorie. Et c'est le fait d'appartenir à une loge ne crée pas une supériorité intellectuelle, une capacité de réflexion plus grande, peut-être une écoute.
Ah oui, pas du tout. Enfin, c'est pas une différence qualitative. C'est simplement que par le fait du fonctionnement de la loge, parce qu'on isole un petit groupe, il est plus facile, effectivement, d'entamer un véritable échange. C'est le rôle de la loge. Ici, comme Adrien l'a dit, c'était une ouverture totale au public, en transparence totale, ce que la franc-maçonnerie fait assez peu souvent, finalement. Alors que le travail de fond, le travail d'échange, de communication profonde de frère à frère, lui, il se fait dans la loge qui est un petit cercle un peu retiré de la vie quotidienne et du monde. Mais c'est indispensable à la méthode.
Alors on parlait de fraternité, mais quand on est jeune apprenti dans une loge, on ne parle pas. Alors Adrien, là, vous avez été content pendant ce colloque, vous avez pu parler.
Ah oui, j'ai pu parler, beaucoup parler, que ce soit en tant qu'intervenant, évidemment. On me posait des questions auxquelles je pouvais répondre, parce que d'habitude, il est vrai que pendant le travail en loge, on n'a pas le droit de parler. Mais pour moi, en fait, justement, ce côté d'apprenti, compagnon, maître, c'est un petit peu comme un apprentissage de la vie. Quand on vient à la vie, en quelque sorte, on n'apprend pas, on ne sait pas parler tout de suite, on l'apprend. Donc au final, beaucoup de gens veulent d'abord parler, exprimer leur avis sans même bien écouter, bien comprendre le fonctionnement autre. Donc là, on apprend à écouter. Alors, c'est pour revenir sur ce que disait Robert, ça c'est une complémentarité, la franc-maçonnerie. On peut très bien s'épanouir sans, on peut très bien dans ses convictions. À partir du moment qu'on se pose des questions, qu'on a envie de voir d'autres choses, c'est une proposition. Pour moi, elle est efficace, pour Robert aussi apparemment, après 50 ans, mais c'est vraiment en complémentarité. Donc oui, ce silence est essentiel, et pouvoir parler après, comme aujourd'hui, et je vous en remercie, c'est vraiment super.
Alors, je vais passer à la troisième table ronde avant de revenir sur la seconde qui parlait de l'amour, parce que la troisième évoquait la notion de travail. Alors, le travail en loge est évidemment différent de la notion de travail qui avait été évoquée pendant ce colloque, où on a abordé le travail d'un point de vue évidemment économique, mais aussi d'un point de vue humain. Vous qui êtes complètement dans le monde du travail, Adrien, quelle différence faites-vous entre les préoccupations d'un jeune comme vous? Vous avez un travail, d'autres n'en ont pas. Beaucoup de maçons n'ont pas de travail, donc il faut aussi tordre le cou au fait que les francs-maçons sont dans un tel réseau qu'ils travaillent tous, ils se trouvent du travail très facilement. Quelle différence faites-vous entre, et quelle aide ce travail maçonnique peut vous apporter dans le travail que vous avez au quotidien et dans vos relations humaines?
Très, très concrètement, le travail maçonnique, c'est un travail sur soi. C'est pas un travail pour une rémunération, pour vivre pour certains. Beaucoup ont un travail, on l'entend de plus en plus, où ils ne s'épanouissent pas, où ils le font pour remplir la gamelle, vulgairement. Mais là, le travail maçonnique, c'est sur soi. En travaillant sur soi ensuite, on peut évoluer dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, mais c'est un travail sur soi. C'est pas, ça ne va pas aller à l'encontre. Une nouvelle fois, c'est complémentaire à sa vie quotidienne. Donc oui, le travail maçonnique m'aide à ça, m'aide à prendre mes choix. C'est-à-dire qu'avant, je le vois. La différence, on la voit en fait nous-mêmes. C'est-à-dire avant d'être maçon, par exemple dans ma vie professionnelle, je n'aurais peut-être pas eu le courage de faire certains choix que j'ai faits. Alors, on m'a pas aidé, c'est pas des frères qui sont venus en me disant fais ci, fais ça. Mais c'est moi, à travers le travail, à travers l'expérience maçonnique que j'ai pu avoir en ces quelques mois déjà, donc preuve que ça peut aller très vite en écoutant et en ne parlant pas, eh bien, j'ai pu évoluer, que ce soit dans ma vie personnelle, sur mes choix ou dans ma vie professionnelle, vu que j'ai changé, rapidement, très rapidement.
Et on a vu, Robert, que les jeunes, lors de ce colloque, s'inquiétaient quand même de. Du travail, de la difficulté du travail aujourd'hui.
Oui, ce qui est tout à fait légitime compte tenu de la situation dans laquelle on sommes. Mais je crois qu'il est important de rappeler aussi que le travail ne sert pas seulement qu'à gagner un salaire. Le travail construit l'homme qui l'exécute. C'est une notion qu'on a un peu perdue, surtout dans les grands groupes où les tâches sont inintéressantes et dont on ne voit pas très bien la finalité. Mais le travail, le véritable travail qui est de transformer le réel, au sens marxiste, carrément, ce travail-là construit l'homme en même temps que l'individu construit quelque chose, que ce soit dans le commerce, dans les relations humaines ou dans l'artisanat. Par conséquent, il faut dire, redire, affirmer sans cesse que l'absence de travail est une déstructuration des individus et que c'est un drame à notre époque qu'il faudrait, la première chose qu'il faudrait redresser, c'est effectivement de donner du travail à tous. Et même du travail modeste, mais on m'a toujours appris que quand on s'efforçait de faire du mieux qu'on peut la tâche qui vous est confiée, alors on avait une petite victoire pour soi-même.
Il est possible aussi que les personnes qui sont sans travail sont évidemment dans des situations personnelles très complexes, et que le fait d'être en loge, d'être accompagné dans la méthode maçonnique, dans les petits travaux que nous avons à faire, nous appelons ça des planches, permet d'aider à la restructuration de l'individu et de se confronter à la difficulté à laquelle il fait face, avec peut-être un peu moins de douleur. Qu'est-ce que vous en pensez, Adrien ?
Oui, je vais vous prendre un exemple simple. J'ai eu le plaisir l'an dernier de devenir père. Donc c'est aussi une des choses qui m'a amené justement à devenir maçon. Ce questionnement sur j'ai 30 ans, je vais devenir père, mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je dois faire? Comment ça se passe? Il y a beaucoup de livres, mais en vérité, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et une semaine après la naissance de mon fils, j'ai perdu mon père, qui est une chose compliquée, très dure, surtout qu'il avait 63 ans, donc c'est finalement très jeune. Et la maçonnerie n'a pas été là pour me réconforter ou pour quoi que ce soit. Non, elle m'a apporté finalement ce que moi j'ai voulu prendre. C'est-à-dire, je me suis mis à travailler et à réfléchir sur d'autres sujets qui m'ont permis de me réconforter, d'avancer, et finalement, pas d'oublier, on n'oublie jamais ça, mais de me sentir mieux en me focalisant sur des travaux, en allant, en avançant. Donc ça a cette utilité, vie professionnelle, mais vie personnelle aussi.
Puisque vous parliez de votre enfant, est-ce que rapidement, le temps nous manque malheureusement, nous pouvons parler de l'amour? Alors, l'amour en franc-maçonnerie, l'amour agapé, l'amour éros, l'amour filet, qu'est-ce que vous en pensez, Adrien, rapidement, et puis après, Robert?
Ah, l'amour, on connaît du coup l'amour de ses parents, l'amour qu'ils ont pour nous, l'amour pour son enfant. On peut aussi en avoir l'amour pour sa compagne ou son compagnon, personne qui partage sa vie, pour des amis aussi. Mais l'amour fraternel, c'est très particulier. C'est quelque chose du jour au lendemain. On vous présente quelqu'un, tiens, c'est ton frère, tiens, c'est ton frère. Et ce lien se crée. J'ai eu le cas avec mon jumeau. Puisque quand on est initié avec une autre personne, on devient jumeau. Et là, eh bien, j'ai découvert ce monsieur qui est devenu mon frère pendant l'initiation. Et aujourd'hui, nous partageons, et je partage pour lui un amour qui est unique.
Alors, amour, c'est un mot que j'emploie avec beaucoup de précaution, parce que je considère qu'il recoupe un engagement total, définitif et complet. Je ne sais pas si nous en sommes tous là, un peu comme l'amour dans le couple, effectivement. Mais je crois que cet amour fraternel, d'une part, à laquelle nous sommes obligés, parce que on nous le demande et c'est un impératif, et d'autre part, parce que c'est un objectif placé en face de nous, parce qu'il est très difficile de l'atteindre dès le premier soir, c'est véritablement le moteur du travail sur soi. C'est pas simplement qu'un travail de conceptualisation ou d'écriture, mais c'est simplement un travail sur soi pour essayer de se rendre digne de ce qu'on affirme, être véritablement frère.
Merci beaucoup, Robert. Merci beaucoup, Adrien. Il me reste évidemment à remercier Pierre Francillon à la technique et Dany Journeau, notre fidèle réalisatrice, et de vous donner rendez-vous à notre prochaine émission du mois de mai qui aura lieu le 15 mai. Au revoir à toutes, au revoir à tous. Merci à vous deux. Merci, et bon dimanche à tous.